Le journal vous est présenté par Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Avec 24 heures d'avance, donc, les États-Unis ont définitivement quitté l'Afghanistan cette nuit, mettant un terme à 20 ans de présence dans le pays et laissant désormais le champ libre aux talibans.
Le dernier avion militaire américain, un C-17, a décollé de l'aéroport de Kaboul juste avant minuit, heure locale. C'est donc une page qui se tourne et un départ qui marque la victoire finale des fondamentalistes. Margot Ben, vous êtes sur place pour Europe 1 et cette nuit, dans la capitale afghane, vous avez vécu ces dernières heures historiques.
Oui, en effet, aux alentours d'une heure du matin, ici à Kaboul, on entendait encore le bourdonnement des derniers avions américains quittant l'Afghanistan. Et puis soudain, on a entendu des rafales de tirs d'armes automatiques. C'était des talibans dans la rue qui célébraient leur victoire, qui célébraient le départ de leur ennemi et leur prise effective de toute la capitale, puisque l'aéroport était le seul endroit qu'ils ne contrôlaient pas encore à Kaboul. Les rues étaient assez désertes, puisque c'était le milieu de la nuit et que les talibans qui tiraient étaient postés dans des endroits spécifiques de la ville. En revanche, au checkpoint auquel j'ai pu me rendre, les talibans se félicitaient de leur victoire et disaient « les étrangers sont partis ».
Margot Ben, en ligne de Kaboul pour Europe 1.
Cette victoire est celle de tous les Afghans, assure ce matin un porte-parole des talibans.
Il n'en reste pas moins que beaucoup d'Afghans opposants au nouveau pouvoir en place vont devoir vivre sous la chape du fondamentalisme islamiste et avec la crainte de représailles d'un régime violent. C'est le cas de ces habitants de Kaboul que Zoé Pallier a pu joindre depuis Paris.
La date butoir est arrivée et beaucoup ont raté leur chance de fuir l'Afghanistan grâce aux troupes américaines ou étrangères.
La foule a disparu aux abords de l'aéroport de Kaboul. C'était la dernière enclave contrôlée par les Occidentaux et désormais, les talibans ont bouclé le périmètre. Comme des milliers d'autres candidats au départ, Yassine n'a pas pu monter dans un avion.
Avec la fin de la mission des troupes étrangères, notre futur va être très sombre pour tout le monde. Les gens n'ont déjà plus accès à aucun service public et on va connaître de plus en plus de difficultés.
Najaf, lui, est journaliste. Il ne croit pas au discours d'apaisement des talibans. D'après lui, toutes leurs promesses voleront en éclats avec le départ des Américains.
Je me suis fait battre par les talibans à Kaboul. Il y a 8 jours, ils ont pris ma caméra et mon portable. Maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver dans les prochaines heures? La situation est très instable.
Malgré la fin du pont aérien, Najaf ne perd pas espoir d'un jour réussir à quitter le pays et son nouveau régime.
Des témoignages recueillis depuis Kaboul par Zoé Pallier. À Washington, Joe Biden, le président américain, doit s'exprimer aujourd'hui pour expliquer ce retrait alors qu'en 20 ans, la guerre en Afghanistan a coûté 2500 vies de soldats américains et une facture de plus de 2300 milliards de dollars. Et puis notez, à Bruxelles aujourd'hui, réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne pour anticiper un éventuel flux migratoire d'exilés afghans vers l'Europe.
À ce sujet, le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies table au maximum pour l'Europe sur un afflux de 500 000 nouveaux réfugiés dans son scénario le plus pessimiste. C'est le chiffre avancé donc par les Nations Unies. 8h04 sur Europe 1, Marseille. Dans l'attente de la visite d'Emmanuel Macron, le président de la République doit y annoncer demain un vaste plan de rénovation et d'investissement pour la ville.
On parle d'une enveloppe globale de plusieurs milliards d'euros. Plan baptisé Marseille en grand, effectivement très attendu par les élus et les acteurs locaux. Stéphane Burgat, notamment sur les questions de sécurité.
Oui, il y a un sentiment d'urgence, vraiment, dans les secteurs les plus pauvres de la ville. Alerte Salim Grapsi, le président du syndicat des quartiers populaires de Marseille.
Il n'y a rien de pire que le désespoir. Là, on est à la croisée des chemins. C'est le dernier coup, j'allais dire le dernier essai, qui permettra de ramener tout un pan de la population issue des quartiers nord vers une construction positive de notre société de demain.
Alors attention à ce que ce déplacement ne soit pas un nouveau rendez-vous manqué. Et il y a une source d'espoir certaine chez les politiques, mais beaucoup de prudence aussi. Exemple auprès du maire LR du 5e secteur, Lionel Royer-Perrot.
Il faut s'assurer que ce ne soit pas un énième plan sans qu'il ne soit suivi de réels effets dans la durée. Nous avons déjà eu des gouvernements qui ont annoncé des milliards d'euros et au final, très peu d'argent est venu dans la corbeille.
Voilà, une forte attente aussi sur le volet de la sécurité de la part notamment de Rudy Mana, le représentant du syndicat de police Alliance.
Si aujourd'hui, le président de la République public descend à Marseille et il annonce rien sur le thème de la sécurité, franchement, je crois qu'on aura loupé quelque chose. Parce qu'il me semble que depuis une quinzaine de jours, on ne parle que de Marseille à propos de l'insécurité.
Mais cela dit, Stéphane, les annonces d'Emmanuel Macron, elles ne se borneront pas aux questions de sécurité. Hein.
Oui, même si son conseiller sécurité fait partie de ce déplacement, les annonces concerneraient trois autres thèmes. En premier, l'éducation, motif initial, on le rappelle, de la prise de contact entre le maire de Marseille et le président de la République. 200 écoles doivent être rénovées et depuis plusieurs mois circule ce chiffre d'1 milliard d'euros environ pour ce chantier. Vient ensuite la question de la rénovation urbaine, de l'habitat indigne dont on a vraiment sondé l'ampleur après le drame de la rue d'Aubagne. Et puis enfin, le dossier des transports très insuffisant. 2 lignes de métro, 3 lignes de tramway actuellement dans une ville qui est 2 fois plus étendue que Paris intramuros.
Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille.
Sur le front de l'épidémie de Covid maintenant, la tendance est à la baisse des contaminations en France métropolitaine.
Mais il est un territoire littéralement submergé par l'épidémie, c'est la Polynésie française. Là-bas, le virus fait des ravages. Emmanuel Macron, en visite dans l'archipel en juillet dernier, avait assuré la population de la mobilisation de la métropole pour lutter contre cette épidémie.
Je voulais être là, tout particulièrement dans ce contexte, pour vous dire que c'est la nation tout entière qui est à vos côtés dans cette crise depuis le début et qu'elle continuera de l'être. Nous ne vous avons jamais laissé seul et nous ne vous laisserons jamais seul. Jamais.
Emmanuel Macron a pas pété le mois dernier, mais un mois après, eh bien la situation est devenue incontrôlable. On retrouve sur place notre correspondant Wallis Glaise.
En Polynésie, le taux d'incidence est supérieur à 3000 cas pour 100 000 habitants, soit 15 fois plus qu'en métropole. Conséquence, l'activité hospitalière explose ici sur le territoire. Des lits supplémentaires ont été installés jusque dans le hall d'accueil. Proportionnellement, le nombre de décès par jour est 36 fois plus important que dans le reste de la France. Pour le docteur Philippe-Emmanuel Dupire, président de la commission médicale d'établissement du CHPF, la situation devient intenable.
On est au maximum de ce qu'on peut faire. C'est un mode de fonctionnement en type médecine de catastrophe. Si on rapportait ça à la population française subirait 6000 décès par jour. Donc nous, on fait malheureusement à regretter 20 à 25 patients décédés par jour.
Après avoir sollicité la solidarité nationale, une centaine de médecins et infirmiers ont été envoyés de métropole. Le président du territoire, Édouard Fritsch, a décidé de se tourner vers Dieu désormais.
Vers qui allons-nous nous tourner? Nous pouvons aussi demander humblement et avec instance secours, faveur et grâce à notre Créateur.
Après cet appel symbolique, le président de la collectivité a quand même invité la population à croire en la science, faisant confiance au vaccin qui est le seul moyen de nous protéger de cette pandémie, a-t-il conclu.
Wallis Glaise, correspondant d'Europe 1, a pas pété.
On s'en remet à Dieu, c'est dire. Cette question pour terminer, Lionel, et si Kylian Mbappé restait finalement au Paris Saint-Germain?
Je crois percevoir dans votre voix l'espoir fébrile du supporter, mon cher Dimitri. Mais
très
c'est
contenu,
vrai,
très
à
contenu.
Quelques heures de la fin du Mercato, alors qu'aucun accord n'est intervenu avec le Real Madrid,
oui.
On peut se demander si finalement eh bien, il n'est pas parti pour rester, comme on dit, d'autant que les négociations entre les deux clubs ont été suspendues, Cyril de la Morinerie.
Oui, le PSG ne voulait pas vendre sa pépite. C'est aussi simple que cela. Le club parisien s'est montré inflexible dès le début des négociations. Le montant proposé par les Espagnols paraissait pourtant irréel. Le Real Madrid aurait fait une dernière proposition à 200 millions d'euros hier soir pour acheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé. Mais le PSG n'a pas besoin urgemment d'argent. N'oublions pas que c'est le Qatar qui finance le club. Et puis les règles du fair play financier ont été assouplies en raison de l'épidémie de Covid-19. Même si ce n'est que pour un an, les Qataris veulent voir leur trio magique Mbappé, Neymar et désormais Messi terroriser les clubs de Ligue 1 et briller en Ligue des Champions. Car avec ces trois magiciens, le rêve de remporter la Coupe d'Europe n'a jamais été aussi proche. Les dirigeants parisiens ont été rassurés par l'attitude de Kylian Mbappé dimanche soir, virevoltant balle au pied, auteur d'un doublé. Il a affiché une belle complicité avec Lionel Messi. Kylian Mbappé garde le souhait de rejoindre le Real Madrid, mais Paris va maintenant essayer de le faire changer d'avis en lui proposant un nouveau contrat en or massif. Les dirigeants sont persuadés que Kylian Mbappé dispose de la meilleure équipe pour gagner des titres et remporter le trophée qu'il désire le plus, le Ballon d'Or.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Un dernier mot pour vous signaler la 32e médaille pour l'équipe de France aux Jeux Paralympiques de Tokyo. C'est la 5e en or pour le cycliste Alexandre Levras et son guide Corentin Hermenot. C'était lors de l'épreuve contre la montre.
Ils perfent, comme on dit, nos athlètes aux Jeux Paralympiques de Tokyo.
Surtout les cyclistes.
Merci Lionel Gougelot. Il est 8h10.